Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Hervé Voix et c'est l'heure de l'interview avec au studio Monsieur Luc Rouquerolles. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici pour nous présenter Asphodel Funéraire, une entreprise qui s'est nouvellement installée au 18 rue Camille Buffardel à Die. C'est en complément de cette installation qui est déjà effective à Livron-sur-Drôme. Et pour cela, on peut peut-être présenter ce nom, Asphodel. Pourquoi ce titre ?
Alors, on a choisi Asphodel parce que dans la mythologie grecque, les Asphodels, le chant des Asphodels, c'est un des enfers. Alors, il faut savoir que dans la mythologie grecque, les enfers, c'est les paradis, en tout cas, c'est ce qu'il y a après la mort. Et donc, le chant des Asphodels, c'en est un. C'est un état intermédiaire. On connaît les Champs-Élysées, qui sont aussi, et puis l'Hadès, qui sont d'autres enfers. Voilà.
Par quel fait vous êtes-vous installé sur Die, donc ?
L'objectif de notre installation sur Die, c'est de pouvoir proposer aux habitants du Diois un service personnalisé. On a cru comprendre, on vient de Livron, donc on n'est pas très loin. Et petit à petit, on a discuté avec les familles. On a des familles qui venaient déjà de ce territoire-là, qui venaient nous rencontrer. Et on s'est aperçu qu'elles avaient éventuellement des demandes personnalisées qui n'étaient pas satisfaites. Donc c'est pour ça qu'on est venu proposer nos services personnalisés avec pour objectif de vraiment accompagner les familles dans ce qu'elles veulent. Alors évidemment, on ne va pas faire dérogation à la légalité. Notre métier, il est extrêmement réglementé. Et donc, on va travailler 100% dans la légalité. Mais par contre, on va toujours se mettre au service des familles pour leur proposer quelque chose de personnalisé.
À cet effet, donc, vous avez effectivement une certification de l'État.
Alors, ce n'est pas une certification, c'est une habilitation préfectorale, c'est-à-dire que le préfet nous autorise à exercer notre métier et qui peut être révoqué, c'est d'où la nécessité pour nous d'être tout le temps dans la légalité. De toute façon, on le serait sans quoi, mais l'habilitation peut être révoquée à tout instant par le préfet s'il juge que nos activités ne sont pas conformes à la législation.
Il y a une législation, comme vous dites, concernant donc cette prise en charge funéraire. Pourquoi donc est-ce qu'il a fallu établir cette réglementation ?
Alors la réglementation, c'est le Code général des collectivités territoriales et l'inquiétude du légal, elle va être de deux ordres. Il y a une inquiétude d'hygiène fondamentale. Évidemment, un corps qui est décédé, c'est une notion d'hygiène qu'il faut traiter correctement et adresser. Donc ça, c'est sa première inquiétude. Et la deuxième, c'est la notion d'identification. Et on ne fait pas n'importe quoi avec une personne après sa mort par rapport au respect qu'on doit à cette personne-là. Et donc l'État est garant du respect des personnes après leur mort quand eux-mêmes ne peuvent plus garantir leur intégrité personnelle.
Et pour vous, cette activité, sur quelle idée vous vous êtes lancé sur ce...
Alors l'activité existe depuis 2020, donc ça fait quelques années maintenant. L'objectif, c'était comme je le disais, déjà à la base, la Livron, c'était d'être au service des familles. Moi, j'avais notamment une appétence particulière pour écouter les personnes âgées me raconter leur histoire. On a des personnes qui sont chargées d'histoire. C'est une rencontre qui m'intéresse. Et puis, parler de la généalogie aussi, tout ça, c'est des choses qui font sens pour moi. On reçoit de nos ancêtres et du coup, on a des choses à transmettre. Et la sépulture, c'est aussi ce lieu-là, ce lieu de la transmission qui, lui, doit perdurer dans le temps, bien que aujourd'hui, on a un monde qui change, etc. Le lieu de la sépulture, c'est vraiment un lieu d'ancrage familial et de transmission.
Luc Rouquerolles, quelles compétences faut-il avoir pour exercer cette activité ?
Alors, des compétences... De l'écoute. Moi, ce qui me plaît d'ailleurs, c'est de prendre le temps d'écouter les personnes. Comme disait un confrère spécialement compétent, il disait notre métier, c'est d'écouter les silences, en fait. Les silences seront beaucoup plus parlants que les paroles. Et donc, de tous les instants, à partir de la prise en charge, dès la prise en charge, et même jusqu'à la création d'un lieu de recueillement, eh bien, on va prendre le temps d'écouter la personne, la famille, les proches, les amis, pour créer quelque chose qui soit à l'image et qui permette à chacun de raisonner en soi tout ce moment de deuil pour pouvoir, on accompagne les gens qui traversent cette étape du deuil.
Vous devez faire face à des situations parfois urgentes ou inattendues.
Urgentes, oui, tout à fait. Notre métier, c'est un métier d'urgence. C'est-à-dire que vous avez un numéro de téléphone qui est un numéro que vous pouvez appeler n'importe quand, H24-7-7, 365 jours par an. Même si on n'interviendra pas tout de suite, vous aurez toujours quelqu'un au téléphone qui répondra à vos questions, qui répondra à vos interrogations et qui fera lever cette panique. Au moment du décès, on peut être le plus compétent de la Terre, il y a une espèce de panique. Et donc, à ce moment-là, d'avoir un contact téléphonique avec quelqu'un qui est capable de prendre en charge, on ne fera pas nécessairement la prise en charge tout de suite, mais déjà on la planifiera et on mettra les choses en ordre et vous serez apaisé. Donc oui, on a une situation d'urgence et après on a des situations pas faciles non plus, parce que c'est des moments où les familles il y a un mouvement dans les familles à ce moment-là, donc évidemment il faut qu'on sache. Alors nous, on n'a pas à prendre position évidemment, mais par contre c'est une situation instable pour nous, tout à fait.
Et alors comment se passe justement ce moment inattendu parfois d'un décès, comment vous missionnez sur cette activité? Est-ce qu'il y a une prise de contact opérée par les personnes, ou alors est-ce que vous-même êtes référent et à laquelle on peut vous contacter assez rapidement?
Alors, de toute façon, le numéro de téléphone, vous aurez toujours quelqu'un qui peut être moi ou quelqu'un d'autre, ça c'est la première chose. Et ensuite, en termes d'assistance, le mieux c'est quand même de s'en soucier avant. Alors la problématique, c'est que plus la mort arrive et moins on a envie d'en parler, hein, évidemment, parce que c'est une réalité qu'on cherche à nier. Et donc, vraiment, le plus tôt possible, c'est pour ça qu'on encourage aussi la prévoyance obsèques. On ne va pas mourir à 60 ans. Par contre, à 60 ans, de se soucier de sa mort, ça fait tout à fait sens. Donc, on est en permanence à l'écoute. On est ouvert donc du lundi au samedi, de 10h à midi le matin et de 15h à 18h. On a une large plage pour pouvoir être disponible et pouvoir être à l'écoute des familles et qui viennent nous rencontrer, qu'ils n'hésitent pas à pousser la porte pour venir nous voir.
Effectivement, hein, sur le site internet Asphodel Funéraire, donc sont indiquées vos disponibilités, les horaires, les contacts possibles. Par rapport à cette activité, pour vous, qu'est-ce qui vous a amené à être dans ce secteur ?
Moi, c'est une reconversion professionnelle. Hein. En 2020, j'avais déjà quelques années de travail, dans l'industrie notamment. 2020, bon, c'est une entreprise qui est quand même née du Covid, avec cette recherche de sens dans mon travail. Et je travaillais pour des industries qui étaient des industries exportatrices. Quand je dis exportatrices, on importait. Moi, je travaillais pour importer des produits chinois qui étaient revendus partout autour de la Terre. Et je cherchais un métier de proximité, de présence. Et donc, c'est là que le métier de pompe funèbre, pour moi, fait vraiment sens.
Cette activité d'Asphodel, sur quel secteur exercez-vous ? Il y a Livron, mais sur le Diwa notamment, vous couvrez tout ce territoire ?
Alors la cohérence aujourd'hui, c'est la vallée de la Drôme. La vallée de la Drôme, de sa source jusqu'à son embouchure dans le Rhône. Ça aujourd'hui, c'est la cohérence de notre société. Après, on ne se limite pas. Il n'y a pas plus tard qu'un mois, on est intervenu à Lyon ou à Montpellier, là où les familles ont besoin de cette écoute, de cette attention, de cette réactivité aussi. On a nos moyens propre. Sauf la partie crémation auquel on fait appel à des crématoriums, mais sinon c'est notre personnel et notre matériel qui intervient. Donc ça assure de la réactivité et une maîtrise de l'intervention.
Si je comprends bien, pour avoir affaire à votre activité, il faut prendre les devants.
Il est préférable, mais je comprends tout à fait la panique de plus le décès arrive et moins on a envie d'en parler. Donc je le comprends tout à fait. C'est pour ça qu'on assure cette disponibilité permanente. Vous nous appelez à partir du moment où ça survient et là on est tout à fait disponible, tout autant que si vous en aviez parlé d'avance. L'un n'implique pas qu'on est moins disponible, on est tout autant disponible.
Et on peut peut-être décrire un peu cette activité, en quoi consiste-t-elle et à quel moment vous intervenez ?
Ok. Pour ce qui est de l'intervention, le premier moment, l'élément déclencheur, alors en avant, il y a la prévoyance obsèques, on va prendre le temps de réfléchir, mais à partir du moment du décès, là, dès les premiers instants, on peut intervenir. On peut intervenir donc dans n'importe quelle situation, que ce soit sur la voie publique, à la maison, dans les hôpitaux. On est mandaté aussi par les gendarmes pour intervenir sur des situations d'urgence ou quoi que ce soit, ou même les pompiers sollicités pour intervenir dans ces cas-là. Donc on intervient dès le décès. À ce moment-là, on va prendre en charge la personne. on peut la prendre en charge. La prise en charge, ça peut être un maintien à domicile, par exemple. Ça, c'est des choses qui, aujourd'hui, peuvent paraître improbables parce qu'il y a eu un mouvement marketing qui essaye de convaincre les gens qu'il faut absolument les emmener dans des chambres funéraires. Ce n'est pas tout à fait notre philosophie. Pendant 2000 ans, on a maintenu des gens à domicile. Alors, par contre, ça a des contraintes. Oui, ça, c'est sûr. Donc, il y a d'autres contraintes. C'est sûr que c'est plus facile d'emmener les corps dans une chambre funéraire et de les traiter dans une chambre funéraire. Nous, on accepte cette contrainte-là de le maintien à domicile. On a tout le matériel nécessaire et le personnel compétent pour pouvoir maintenir. Éventuellement, si on veut faire des soins, on pourra organiser un transfert vers la salle de soins et ramener à domicile. Mais en tout cas, on peut maintenir à domicile. Ensuite, on peut faire du repos aussi à l'hôpital. L'hôpital est tout à fait très bien équipé. Donc, c'est le service public. Hein. Si le décès survient à l'hôpital, on peut maintenir à l'hôpital. Et puis, évidemment, on peut proposer. Donc, sur la zone du Diwa, il y a une chambre funéraire qui, elle aussi, est soumise à une habilitation préfectorale. Et son habilitation préfectorale sous-tend deux choses. La première, c'est qu'il y a un règlement intérieur qui est applicable aussi bien à l'opérateur qu'à nous-mêmes. Et la deuxième chose, c'est que la tarification est la même.
Alors, il y a ces préparatifs. Est-ce que c'est une contrainte plutôt financière et donc à prévoir pour les personnes demandeuses, les familles ou même la personne si elle a pris, si elle anticipe hein, cette situation?
Alors, il y a un montant non négligeable qui va être ici concerné. Après, comme notre métier, c'est de faire du sur-mesure, on est capable de faire une version très, très simplifiée. Allez, je vais vous dire, la fourchette, ça commence à 1700, hein, à partir de 1700 euros, ce qui est déjà un budget significatif, hein, évidemment. Donc, il faudrait le prévoir. Et ensuite, ben, c'est en fonction de la personnalisation. Notre métier, c'est vraiment du service. Donc, après, c'est les familles qui dimensionnent le service et qui expliquent ce qu'elles veulent.
Ce qui peut arriver aussi, c'est des personnes fortement démunies. Est-ce qu'il y a un soutien quelconque, justement, pour cette prise en charge au niveau financier, pour ce service?
Alors, pour ce qui est de la partie indigent, je pense que c'est ça auquel vous faites allusion. Dans ces cas-là, ça relève de la compétence de la mairie qui, elle, doit se charger des personnes indigentes. Après, ils feront appel à des opérateurs, puisque nous avons les compétences et le matériel, mais c'est la mairie qui se doit de traiter la partie indigent, avec notamment aussi le CCAS. C'est souvent des personnes qui sont enregistrées au CCAS.
Alors, la prise en charge d'une personne décédée, donc, vous pouvez effectuer cette mise en maintien à domicile.
Oui,
comment s'opère donc cette mise en place à domicile? Est-ce qu'il y a des contraintes et de quel ordre?
Alors, pour la mise en place à domicile, le délai pour lequel on va maintenir à domicile va être assez déterminant. Et ensuite, alors, du plus simple, si le délai est court, la personne peut être maintenue à domicile en l'état. Voilà, on va venir à domicile faire une simple toilette et ensuite la personne va être maintenue à domicile et rapidement, elle va être prise en charge pour l'inhumation ou la crémation. Si on a des délais un peu plus longs, on va plutôt, alors dans ces cas-là, avoir recours à ce qu'on appelle éventuellement des soins de conservation et qui, là, devront être réalisés dans le laboratoire. Donc, on assure un transfert au laboratoire et un retour à domicile. Et puis, en intermédiaire, il y a un équipement qui permet de maintenir à domicile et de refroidir légèrement le corps pour éviter que ce qu'on appelle la thanatomorphose, qui est le corps qui va commencer à se décomposer, soit maintenu et endigué au maximum.
Parfois, pour les cérémonies, il y a cette toilette. Peut-être bien plus, ça dépend aussi du mode de décès, hein. Ça peut être aussi lié à un accident. Donc, est-ce qu'il y a, par exemple, une reconstitution à produire de manière à rendre la personne présentable? Ça, c'est... Et comment se forme justement cette technique?
Alors ça, c'est un métier très particulier. Le métier de pompe funèbre, c'est vraiment la prise en charge. Là, vous faites plutôt allusion à ce qu'on appelle le métier de thanatopracteur. Et là, le thanatopracteur, son métier, ça va être de reconstruire, reconstituer. Fort heureusement, on a très peu à faire à ces cas-là. Dans ces cas-là, moi, je m'efface, la pompe funèbre s'efface. On est toujours en contact avec la famille, mais on va laisser la famille et le thanatopracteur travailler ensemble pour que ça réponde aux contraintes de la famille. C'est un moment très important. On est évidemment dans des situations qui sont des situations de détresse assez importantes. Donc dans ces cas-là, le thanatopracteur intervient pour faire éventuellement des reconstitutions. Oui, tout à fait.
Et ça, c'est une des propositions que vous avez?
Voilà, nous, on travaille avec un thanatopracteur. Donc on n'a pas de thanatopracteur salarié. Mais par contre, on travaille avec quelqu'un de qui on est très satisfait et qui fait très bien ce travail-là. Il y a vraiment toute une partie psychologique aussi sur laquelle on intervient. Le thanatopracteur, c'est un très bon praticien, mais nous, il faut qu'on assure quand même un suivi psychologique de la famille et des membres.
Et pour cela également, vous mettez en avant de travailler avec des professionnels plutôt proches de votre secteur d'activité. Vous citiez l'Ardèche pour le concepteur de cercueils. Et quels sont les autres partenaires aussi ?
Alors, on était récemment en contact avec un fabricant d'osier de la vallée de Quin pour pouvoir éventuellement proposer un cercueil en osier. Donc voilà, une autre alternative, mais toujours dans un ancrage local. Aussi, on se rapproche évidemment des partenaires que sont les fleuristes et les autres intervenants locaux pour pouvoir proposer des prestations locales. On a dans nos propositions aussi d'articles funéraires et de sépultures de lieux de recueillement. On est capable de proposer une transformation en drôme, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit quelque chose, un monument qui sera fait en Asie, eh bien, on est capable de proposer une transformation directement en drôme, avec aussi, on fait l'article, des monuments plutôt fabriqués en France, plutôt que des monuments importés, évidemment. Après, on informe les familles, et à l'instar de ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment les familles qui décident. Ce qui, pour nous, peut nous sembler plus développement durable, pour d'autres raisons, eh bien, les familles peuvent arbitrer pour un import, ça leur regarde, c'est eux qui décident.
Quand vous dites un service personnalisé, est-ce que il peut être spécifique aussi à une demande de la personne concernée, si elle a pris les devants, ou alors à une demande de la famille aussi? Est-ce que quelles sont les possibilités justement de ce service personnalisé? Est-ce que c'est la cérémonie, c'est aussi le cercueil? Vous parliez d'un cercueil en osier, mais j'imagine qu'il y a tout un éventail de qualités et de propositions. Et est-ce qu'il peut y avoir aussi des demandes qui sortent du catalogue ?
Alors évidemment, oui, et nous, on sera toujours attentif à fournir des choses qui sortent du catalogue. Je n'ai qu'une seule contrainte, c'est la contrainte légale. Ça, c'est vraiment ma seule contrainte. Donc de fait, pour l'histoire du cercueil en osier, eh bien, il va falloir valider des épaisseurs, il va falloir valider des résistances, etc. Donc le cercueil doit être déposé, un modèle et détaillé pour assurer tous ces éléments-là. Au-delà de ça, au-delà de la partie légalité, si vous décidez de faire une arrivée en hélicoptère et que vous voulez que votre cercueil se pose en hélicoptère, notre métier, c'est le service. On vous fera une arrivée en hélicoptère, vous inquiétez pas. Tout est personnalisable.
Oui, et il y a cet aspect, donc, de quoi est constitué un cercueil? Il y a ce coffre en bois, mais à l'intérieur, on y trouve aussi quel matériau?
Alors, il y a d'autres matériaux qui sont des matériaux fonctionnels. Il y a ce qu'on appelle une cuvette qui a vocation à éviter que les fluides coulent. Et puis ensuite, on a tout simplement l'ancrage des poignets à l'intérieur. Voilà, il n'y a pas beaucoup plus à l'intérieur du cercueil.
D'accord, j'imaginais qu'il y avait en quelque sorte une enveloppe de plomb aussi parfois.
Alors c'est un zinc, ça peut arriver, c'est très rare et c'est notamment quand le corps va partir à l'étranger ou quand les corps viennent de l'étranger, mais s'il n'y a pas de contrainte ou il peut y avoir une contrainte sanitaire, comme je vous disais tout à l'heure, l'inquiétude du légal, s'il y a une maladie contagieuse, et bien dans ces cas-là, on va se protéger nous-mêmes et on va protéger l'environnement en mettant dans ce qu'on appelle un cercueil zingué, fermé dans ces cas-là hermétiques.
Comment s'appelle ce service et dans quel local? C'est un laboratoire en quelque sorte.
De quel service vous voulez parler?
Pour justement s'occuper, soigner cette personne.
Oui, alors le laboratoire.
Dans ce processus.
Pour la toilette et les soins. Alors, la toilette peut être réalisée à domicile. Et ensuite, pour les soins, on va se mettre dans un environnement qui, lui, est un environnement de type laboratoire ou salle d'eau, hein, puisque l'objectif, c'est de pouvoir nettoyer, toujours avec la contrainte d'hygiène. On a un labo de préparation à l'hôpital qui est tout à fait performant et tout à fait adapté pour ce genre de choses. Et sinon, aussi, donc, dans la société qui est en face du cimetière, il y a aussi un laboratoire qui nous permettrait de préparer les corps.
Là, on a abordé principalement l'aspect du traitement du corps de la personne. Ensuite, il y a ces cérémonies et puis l'inhumation ou la crémation. Alors, ces processus se préparent à l'avance. Et pour cela, vous avez aussi des contacts avec les organismes ou les services municipaux, ne serait-ce que pour l'inhumation, par exemple, ou la crémation?
Oui, tout à fait. Alors, on a beaucoup de démarches administratives à faire dans notre métier. Je regardais en moyenne, il y a au moins une dizaine de démarches administratives pour chaque décès à faire, des déclarations de partout pour des inhumations, pour des crémations, pour des autorisations de fermeture de cercueil, etc. Donc oui, on est tout le temps en contact avec les services municipaux de la commune du lieu de décès, de la commune du lieu aussi où on peut faire des opérations intermédiaires, et puis aussi pour la crémation ou l'inhumation qui sont les des opérations terminales, on a aussi affaire aux autorités et administrations.
Et parfois aussi les municipalités qui accueilleront ce corps, si voilà. Ça se passe ailleurs.
Oui, oui, tout à fait. Alors que quand on fait des transferts, on se doit d'informer, on informe les mairies. Quand un corps, à chaque fois qu'un corps va arriver sur une commune, le maire, en amont, a reçu ce qu'on appelle une déclaration préalable pour savoir que le corps va arriver sur la commune. Après, c'est rien d'inquiétant, mais en tout cas, le maire, à tout instant, peut savoir quels sont les corps qui sont actuellement sur sa commune en regardant tout simplement ces déclarations préalables de transport.
Il y a aussi cet aspect de gérer ce corps. Il y a les cérémonies après. Elles sont aussi ouvertes à toute proposition, j'imagine.
Voilà, alors on va encore une fois être personnalisé. Avec la famille, on va construire les différents temps. Notre objectif, c'est d'accompagner les personnes dans ce processus de deuil. Donc il y a des moments où ils voudront aller plus vite dans la progression, d'autres ils voudront prendre le temps. Voilà, c'est assez troublant, mais un même geste sur un cercueil, vous voulez le faire rapidement parce que c'est une séparation et donc vous voulez que ce soit fait rapidement. Par contre, d'autres voudront au contraire à ce moment-là prendre le temps de laisser la distance se creuser. Et ben voilà, ça c'est à nous de nous adapter et d'être à l'écoute des familles et à l'écoute des individus aussi, parce que la famille c'est un grand tout, mais il y a chaque individu qui vit différemment sa cérémonie pour permettre à chacun d'avancer dans ce processus de deuil. Donc oui, c'est 100% personnalisé sur les musiques, les prises de parole, les positions de chacun, etc. Tout ça.
Parfois le lieu même d'une cérémonie.
Voilà. Oui, tout à fait. Alors ça c'est soumis, d'habitude on le fait dans des salles, mais on peut aussi le faire en plein air à l'appréciation de la mairie. Il faut que la mairie nous autorise évidemment, parce qu'on a aussi une partie de trouble à l'ordre public. On ne peut pas faire n'importe quoi avec un cercueil évidemment.
Même sur un lieu privé.
Alors oui, bien sûr, on pourrait organiser à domicile, typiquement si on a maintenu à domicile ou quoi que ce soit, on peut organiser à domicile le temps de recueillement. Il n'y a pas de contrainte particulière parce que, vous le comprenez, il n'y a pas de notion d'hygiène qui pose souci. Et ensuite, tant qu'on est dans la légalité, il n'y a pas de souci et qu'on ne fait pas de trouble à l'ordre public.
Lors de ma jeunesse, ça c'est plus personnel, j'avais un grand-parent qui avait fait inhumer son épouse dans son jardin. Est-ce que c'est encore valable aujourd'hui d'avoir une inhumation chez soi plutôt que sur un cimetière ?
Possible, ça l'est. Après, légalement, ça nécessite de faire des analyses hygrologiques pour être très précis et il y a toute une batterie d'éléments. Par contre, nous sommes adhérents de l'association des cimetières privés de la Drôme et donc il existe des cimetières privés en Drôme. C'est assez spécifique, qui peuvent être des cimetières protestants ou des cimetières catholiques, si c'était confessionnel. Et donc, dans ces cimetières-là, l'association, justement, s'évertue à faire les démarches nécessaires pour permettre d'avoir encore des inhumations dans ces cimetières-là. Alors aujourd'hui, si vous voulez inhumer dans votre jardin, il va falloir demander l'autorisation au préfet, qui de toute façon ne va pas vous la donner sans que vous ayez donné les garanties. Et puis il faut savoir aussi que sur le long terme, ça s'appelle quand même une servitude perpétuelle. C'est-à-dire que vous, si vous voulez venir vous recueillir, si vous vendez le terrain ou quoi que ce soit, il faut que dans 30 ans, vous puissiez continuer de venir vous recueillir. Je ne sais pas s'il y a grand monde qui est content d'acheter un terrain en se disant qu'il peut y avoir plein de gens qui peuvent venir sur le terrain pour se recueillir. Il y a quelques contraintes notariales là qu'on vient d'intégrer.
Tous ces services soulagent en quelque sorte les familles. Est-ce qu'il y a des propositions à laquelle vous n'avez pas pu répondre parfois ?
C'est très difficile, oui, très difficile. Évidemment, ce serait ambitieux et prétentieux, en tout cas, de dire qu'on n'a pas pu répondre. C'est un métier où on a les sens en éveil et on passe notre temps à écouter, essayer de comprendre, on va interpréter. Oui, on a fait des erreurs d'interprétation. On peut en faire, évidemment. C'est pas de mauvaise intention, c'est pas parce qu'on a voulu bâcler le travail ou quoi que ce soit, mais parce qu'à ce moment-là, on a apprécié de manière peut-être... on a apprécié différemment la situation et que du coup, ça a généré des difficultés. Mais majoritairement, rassurons-nous, ça se passe bien et les familles sont très contentes de nos services. Et ils ont en tout cas, ça c'est vraiment indéniable, ils ont eu de l'écoute, de la disponibilité, même si après, ça c'était pas forcément adapté à ce qu'ils voulaient. En tout cas, il y avait de la disponibilité et de l'écoute.
Il y a aussi le décorum, de cet enterrement, il y aura cette stèle ou peut-être cette tombe. C'est le domaine de la marbrerie. Et pour cela, vous travaillez avec des professionnels? Ou alors est-ce que parfois la famille aussi impose peut-être un artiste ou quelqu'un qui souhaiterait justement aller dans ce sens?
Alors, la marbrerie, j'identifie pas ça à simplement de l'habillage en pierre. Pour moi, c'est vraiment un lieu de recueillement, c'est-à-dire que c'est le lieu où on va vouloir venir voir l'être cher. C'est spécialement important dans nos civilisations qui ont tendance à être déracinées, qui vont changer de pays, de région, etc. C'est quand même un berceau familial. Donc, sur ce lieu-là, notre objectif, c'est de permettre aux gens de se recueillir. Donc, évidemment qu'on travaille en partenariat soit avec nos fournisseurs habituels, on est aussi transformateur de pierres, ou sinon, on peut faire intervenir dans ces cas-là, les artistes, les artisans que souhaite la famille. On n'a pas de contraintes particulières. Ce qui est important pour nous, c'est qu'à la fin, ce lieu de recueillement soit l'image du lien que toutes ces personnes ont entretenu entre elles. C'est tout pour faire écho à ce lien-là.
Il y a donc ensuite cet emplacement hein, au cimetière. Comment se régit-il? Il y a une prise de contact avec la municipalité, j'imagine, pour accéder à ce cimetière avec toutes les procédures qui s'en suivent. Est-ce qu'il y a aussi peut-être cette notion du caveau familial? Et dans ce cas-là, c'est aussi voir à plus long terme. Donc tout ça, ça se discute avec les personnes, mais aussi vous, au niveau des municipalités, vous devez vous mettre au diapason hein, des possibilités de ce qu'il y a à faire.
Alors, pour ce qui est du choix, le choix de la concession, parce que la concession, ça c'est la première étape. On peut proposer le service. Par contre, je conseille le maximum, c'est que les familles aillent voir au cimetière. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ça va être un lieu de recueillement. Si vous voulez être à l'ombre des arbres ou si vous voulez être en plein soleil, ça c'est vraiment vous qui allez choisir, votre orientation aussi. Et donc, il faut prendre le temps d'aller se balader dans le cimetière et d'identifier l'emplacement qui va vous correspondre. Ça, c'est la première chose. Donc, on peut faire intermédiaire et vous proposer des emplacements. Hein. C'est comme au théâtre, vous avez la liste des pièces, des chaises vides et vous pouvez choisir celle que vous voulez. Mais le mieux, c'est quand même d'aller au cimetière et de le vivre cet emplacement, de voir aussi les voisins, de voir ce que vous avez autour, et c'est l'endroit qui va vous plaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la partie caveau, comme vous le disiez à l'instant même. La partie caveau, c'est de voir un peu plus loin. Alors là, moi, dans ces cas-là, j'invite surtout les familles à se concentrer sur des concessions perpétuelles, à voir qu'est-ce qu'ils ont déjà dans leur, comme concession, et éventuellement, peut-être, beaucoup se concentrer sur la rénovation. On fournit, on propose de la rénovation, on fait du caveau neuf, évidemment, hein, mais on propose aussi beaucoup de rénovations parce que pour nous, ce qui est important, c'est de permettre aux familles d'avoir cette transmission. Il ne faut surtout pas laisser des concessions perpétuelles être abandonnées. Donc aussi, on peut faire des travaux de fossoyage qui permettent de mettre les ossements dans un reliquaire et de faire ce qu'on appelle de la place. Ce n'est pas très élégant, mais en tout cas, pour permettre à ceux qui arrivent derrière d'être inhumés dans la sépulture dans laquelle il y a encore leurs grands-parents, arrière-grands-parents, etc.
D'ailleurs, une concession, de quelle durée est-elle valable?
Alors, au niveau de l'État, vous avez, alors ça fait maintenant quelques années que j'étais formé, mais de mémoire, 5, 15, 30, je ne sais pas si le 50 existe, et la concession perpétuelle. Voilà, c'est les 5 types de concessions que je connaisse. Peut-être que je me trompe sur la 30 ou la 50. Mais après, pour moi, il y a vraiment 2 catégories de toute façon. Il y a la concession temporaire et puis il y a la concession perpétuelle. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de conseiller les familles sur la concession perpétuelle, puisque c'est là que la transmission pourra se faire. Sur une concession temporaire, à l'échéance, il va y avoir ce qu'on appelle une reprise administrative. Et dans ces cas-là, les ossements vont aller au caveau communal. C'est pas forcément souhaité par les personnes.
Il y a la crémation aussi. C'est une autre manière hein, de s'occuper d'une personne. Quelles sont les contraintes par rapport à cette crémation? J'imagine que les lieux sont très limités. Et ensuite, que deviennent ces cendres? Comment peut-on les... Que deviennent-elles d'ailleurs ces cendres?
D'accord. Alors pour votre question en plus un point, la première partie c'est le crématorium. Donc les crématoriums ici, on va aller plutôt du côté de Valence, du côté de Montélimar ou du côté de Grenoble. C'est les 3 principaux crématoriums que j'identifie. Après on n'a pas de contraintes particulières. S'il faut aller plus loin, on peut aussi aller.
Quand vous dites les principaux crématoriums, c'est qu'il y en a d'autres aussi?
Alors voilà, il y en a d'autres évidemment, mais qui sont plus loin ou qui sont moins accessibles, moins pratiques. Mais après, à la faveur d'un planning, il y a des familles qui viennent et qui nous disent « moi je veux que la crémation ait lieu le samedi après-midi ». Eh bien, on va aller chercher le crématorium qui va proposer la prestation du samedi après-midi, alors qu'il sera éventuellement un peu plus loin ou à d'autres endroits. Donc ça, c'est pour les crématoriums. Ensuite, votre question sur la destination des cendres. Alors, le statut de destination des cendres a évolué en 2008. C'est maintenant plus trop récent, mais en tout cas, les personnes ont souvent du mal à l'oublier. Enfin, ils l'oublient. Il y a quand même une législation qui dit typiquement qu'on n'a pas le droit de garder les cendres à domicile. Ce n'est pas une destination normale pour des cendres. Et donc, en termes de destination, on en identifie deux principales. Les premiers, c'est les lieux qui sont à cet effet, donc qui peuvent être soit dans une sépulture, soit dans ce qu'on appelle un puits de dispersion, mais qui sont toujours dans des contextes cimetières. Ou sinon, le deuxième type, ça va être la dispersion pleine nature, qui peut être une des issues possibles aussi pour les cendres.
Il y a donc ces deux formules, l'inhumation ou la crémation. Oui. Et je ne sais pas si vous êtes intéressé aux cultures au niveau de la planète. Il y a d'autres traitements aussi du corps. Est-ce que parfois vous avez une demande qui sort de ces deux contextes ?
Alors, des demandes, j'en ai, des très, moi, j'ai eu très baroques. De toute façon, légalement, au niveau français, il n'y a que ces deux issues-là. Donc oui, à l'étranger, vous en trouverez qui de l'humisation ou d'autres formes comme ça. En France, ce sera les deux issues que sont l'inhumation ou la crémation.
Et quand bien même, dans un pays européen, ça peut différer ?
Oui, bien sûr. Ah oui, le droit est ici encore national. Donc nous, c'est le Code général des collectivités territoriales. Ça montre bien qu'il y a un ancrage local. On n'a pas les mêmes règles que les pays voisins, tout à fait.
Autour de ça, il y a aussi donc, cet aspect, peut-être, je ne dirais pas festif, mais qui puisse aussi commémorer ce moment. C'est peut-être l'intervention d'artistes ou d'un spectacle qui puisse peut-être accompagner cette cérémonie. Vous avez une prise en charge opérée ou alors les personnes les proposent d'elles-mêmes ?
Il peut y avoir les deux. C'est-à-dire qu'on a certains artistes qui sont venus nous voir en disant qu'ils avaient l'habitude, qu'ils étaient déjà intervenus et que donc ils souhaitaient qu'on propose leur service. Donc on peut proposer leur service. Et puis sinon, les familles aussi, de la petite fille qui joue de la flûte jusqu'au professionnel, il va y avoir toute la palette. Et donc on peut intégrer dans nos cérémonies des interventions d'artistes qui sont proposés par nos services ou des artiste par la famille.
Et votre rôle donc consiste à cette prise en charge, à ensuite cette inhumation ou crémation. Est-ce que ça s'arrête là ou alors il y a d'autres services à soupçonner qu'il y a à découvrir ensuite?
Ça va être principalement sur la partie pompe funèbre et ensuite l'entretien des marbreries. C'est pour nous un sujet important et auquel on est tout le temps attentif et disponible.
Je reviens maintenant, parce que là, on a abordé un peu l'activité de Asphodel, funéraire. Est-ce que vous-même, vous vous êtes intéressé justement à ce traitement fait au corps à travers d'autres civilisations, par connaissance ? Et parfois, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent peut-être être associées dans l'idée ?
Alors, oui, le soin au corps, c'est quelque chose qui, pour moi, est important. On est attentif à des personnes qui ne peuvent plus prendre soin d'elles-mêmes, donc c'est vraiment très important. Là-dessus, pour moi, le film majeur, c'est The Departure, si vous le connaissez ou pas, et qui s'inscrit dans la culture japonaise et qui détaille le soin qu'on donne au corps, justement, avant la mise en bière, et qui est assez intéressant, qui est fait en présence de la famille. Donc, c'est des pratiques qui, moi, m'intéressent par cette attention qu'on donne au corps. Tout à fait, oui.
Et avant même parfois le décès, hein, pour des personnes prévoyantes, elles ont aussi ce besoin d'être rassurées, hein, par ce qui va se passer. et peut-être vis-à-vis aussi de la famille ou d'amis. Vous proposez aussi des services qui anticipent un peu cette situation.
Alors, le service de prévoyance et de l'anticipation, on va pouvoir discuter de tout ça. Par contre, vous évoquez un autre métier qui est le métier de la doula, la tanadoula, pour la nommer très précisément, qui est la vocation à, aussi bien pour le défunt que pour son environnement, à passer du temps avec ces personnes et les accompagner dans ce processus de deuil. C'est encore un autre métier qui n'est pas le nôtre. Il pourrait y avoir conflit d'intérêts parce que on est vraiment en pompe funèbre et le tanadoula, alors c'est pas un métier médical, mais c'est un métier d'accompagnement qui est différent. Ce serait comme une infirmière, mais c'est pas un métier médical.
Est-ce qu'on peut indiquer l'origine de ce terme pompe funèbre?
Ah, la pompe funèbre. C'est pas forcément le côté que j'aime le mieux, parce que la pompe, c'est le faste. L'objectif, c'est d'en montrer, d'en jeter. Je suis pas tout à fait en phase avec, mais maintenant, le terme pompe funèbre reste parce que c'est celui qui a toujours été, mais on évolue de plus en plus vers ce qu'on appelle des services funéraires, qui ont vocation à pas nécessairement être la pompe et le faste, mais qui à être plutôt adapté aux souhaits des familles.
Luc Roucquerolles, je vous remercie beaucoup pour votre intervention sur RDVoix pour nous parler donc de Asphodel Funéraire. Vous avez un site internet qui s'intitule asphodel-funéraire.fr. Et là, on peut trouver ce site très explicite sur toutes les situations. Et il y a un numéro de téléphone aussi pour vous joindre. Et au-delà de cette adresse aussi du 18 rue Camille Buffardel, c'est le 04 75 25 91 87. Est-ce qu'il y a parfois dans cet exercice une nécessité d'avoir un peu d'ambiance musicale parfois?
Vous voulez dire au moment du rendez-vous ou pendant
Oui.
On a de toute façon du matériel pour sonoriser, on peut sonoriser à tout instant. Et donc oui, ça peut, suivant les demandes, être fait, évidemment.
Alors, juste parce que j'illustre souvent l'émission avec un morceau de musique, est-ce D'accord. que vous avez une proposition?
Mon coup de cœur, c'est Nina Simone, Feeling Good.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Luc Roucquerolles, d'être venu sur RDVoix. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.